Bonsoir à tous. Une nouvelle soirée qui... Une soirée pas comme les autres. Pour ceux qui observent le sabbat, c'est le début d'un jour de rafraîchissement physique, mental et spirituel. Dans la présence de Dieu et avec les membres de la communauté. Je souhaite en tout cas à chacun de vous une chaleureuse bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir et de vous proposer donc un nouveau programme. Ce soir, nous allons parler du destin futur de l'humanité, tel que Jésus en parle. Nous avons avec nous le pasteur Paolo Benigni, qui va donc traiter ce sujet. C'est un sujet qui passionne l'humanité en ce moment. Quel avenir ? Quel avenir pour notre planète ? Je suis tombé là sur un article récent, Notre vie, dans le journal Le Monde, hein, grand journal, considéré comme relativement sérieux. Le Monde en 2050. Et d'après l'auteur de cet article, ce n'est pas un monde imprévisible, mais prévisible. Et on peut donc prédire ce que sera le monde en 2050. Les scientifiques savent déjà à quoi ressemblera notre monde en 2050. Il sera différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. À l'échelle de l'évolution climatique, 2050, c'est demain. Alors bien sûr, la température moyenne à la surface de la Terre aura franchi la barre des 2 degrés au-dessus de ce qu'elle était il y a tout juste un siècle. L'Arctique est entièrement dénué de glace durant la période estivale et la température de l'océan a considérablement augmenté. Je passe, hein. En Inde, la chaleur précédant la mousson est maintenant handicapante pour une large partie de la population. Les habitants des régions côtières proches du niveau de la mer voient fréquemment l'océan monter et entrer dans les terres durant les tempêtes. Dans les régions tropicales, la construction et la maintenance des infrastructures, des villes et des bourgades devient de plus en plus difficile en raison de températures diurnes qui dépassent souvent le seuil au-delà duquel il est dangereux de travailler en plein air. Et puis montée des eaux, donc des chaleurs hein, étouffantes, de plus en plus handicapantes, et puis la montée des eaux. Plusieurs petits états insulaires, je ne les nomme pas, sont désormais inhabitables en raison de la montée des eaux. Les populations n'ont plus de terre et leur avenir s'annonce plus qu'incertain. Donc le tourisme qui représentait une part importante des économies locales s'est écroulé. En 2050, l'Australie du Sud, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient sont en proie à des sécheresses prolongées, des périodes de chaleur intenses. Les incendies de forêt sont de plus en plus dangereux. On l'a vu l'été dernier, hein. La Grèce notamment, la Californie et autres, menaçant les habitations et les environnements urbains et endommageant les écosystèmes naturels. La question de l'approvisionnement en eau se pose de manière aiguë, alors que les nappes souterraines se vident. Royaume-Uni, Europe du Nord, donc dans ces lieux, la météo est de plus en plus volatile, ce que l'on constate déjà en ce moment. Ça veut dire quoi ? Ben, les températures font le yo-yo, hein, et présentent des températures et des précipitations extrêmes de plus en plus fréquentes. Donc il faudra partir le matin avec la veste, le t-shirt, le parapluie et puis la casquette. Vous voyez ? C'est-à-dire on ne saura plus trop à quel temps on sera mangé. Pas la sauce, mais le temps. Voilà, puis il termine en disant « Cet aperçu des conditions climatiques en 2050 constitue une sévère mise en garde. Le changement climatique est un déterminant fondamental de notre avenir. Il est de notre responsabilité de préserver la diversité des écosystèmes terrestres, etc. » On entend souvent parler. C'est une préoccupation majeure de l'humanité. Alors bien sûr, on se préoccupe de la survie de l'espèce, mais humaine et des autres. Mais je crois que la parole de Dieu a encore autre chose à dire, elle a un point de vue un peu différent. On ne parle pas que d'économie, que de climatologie, que de l'avenir de l'humanité sur la terre. On va l'entendre dans un instant.
Bonsoir à tous. Ce soir, on entre dans un thème qui concerne encore le Christ. Et je crois qu'il le concerne d'une façon pour laquelle, comme jamais, nous avons besoin maintenant d'y réfléchir de plus en plus. Jésus, prophète, nous avons vu plusieurs titres de Jésus. Jésus le Sauveur, Jésus le Créateur, Jésus le Maître, notre modèle. Et nous pouvons augmenter, juste pour vous confirmer, donner la preuve que nous pouvons augmenter, je vous remets une diapositive que j'ai montrée la première soirée. C'est cet auteur, Vittorio Messori, qui a écrit le livre « Hypothèse sur Jésus ». Et il écrit dans son livre que dans le XXe siècle, le siècle passé, plus de 62 000 livres, volumes, ont été écrits sur Jésus-Christ. Absolument quelque chose d'important et de grand. Et c'est quelqu'un d'il y a 2000 années. Ce n'est pas l'héros d'hier. Cela nous donne un peu l'importance, la grandeur, la grande contribution, le grand apport qu'il a amené à l'humanité. Nous voulons considérer donc maintenant Jésus comme prophète. Prophète qui a quelque chose à nous dire, pas seulement pour nos présents et nos passés, mais par rapport à notre avenir. Et après la lecture que le pasteur a fait pour ce qui est apparu dans un journal, je ne sais pas, je crois que nous avons besoin, pas seulement de la casquette pour l'avenir, nous avons besoin de beaucoup plus. Imaginez-vous, et les données de 2050, je pense que c'est un peu optimiste. Dans les années 70, les MIT, c'est un institut américain, avait publié un livre, la crise du développement, les limites du développement. J'essaie de traduire en français le titre en italien. Et il disait que si on ne prenait pas des mesures 1970, si on ne prenait pas des mesures dans l'année 2000, il y avait encore 30 années, la chose aurait été différente de celle qui était à ce temps-là. 10 ans après, ils ont écrit un autre livre. Le titre, je l'ai traduit de l'italien, c'était « Stratégie pour survivre ». Et ils disaient que la prévision qu'ils avaient faite, c'était trop optimiste. Et aujourd'hui, on a d'autres motifs pour dire que les prévisions sont souvent dépassées des événements. Nous avons parlé de Jésus prophète. Jésus prophète est un des aspects de son ministère, de sa personne, de ce qu'il a été. Jésus a été, il y a un texte dans les évangiles que les gens disent, il y a un grand prophète qui s'est levé parmi nous. Jésus prophète. Et je vous montre tout de suite deux textes qui nous montrent comment les gens voyaient Jésus. Un, c'est dans Matthieu 22, 11. Il est le prophète qui vient de Galilée. Les gens voyaient en Jésus un prophète. Et un autre texte, c'est Jésus même qui le dit. Il ne dit pas « je suis prophète », mais implicitement il le dit. « Un prophète n'est pas méprisé dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il est en train de parler avec ses disciples, de discuter avec ses disciples de comment les habitants l'ont reçu. implicitement, Jésus dit qu'il sait qu'il est un prophète. Mais Jésus est prophète dans le sens plus total. Quand on pense à prophète, on pense à quelqu'un qui dit l'avenir. Mais ce n'est pas seulement les prophètes dans la Bible. Les prophètes dans la Bible, c'est beaucoup plus. Dans la Bible, un prophète, c'est quelqu'un qui annonce un message de la part de Dieu. Et Jésus, en cela, avait milliers d'auditeurs parce qu'il voyait en lui quelqu'un qui parlait avec autorité et il avait quelque chose d'important à transmettre aux gens et les gens étaient là pour voir ce qu'il avait à dire. Vous imaginez, un jour, Jésus a donné à manger à 5000 hommes, sans compter les femmes et les bébés. Ils étaient là depuis longtemps, depuis plus d'un jour, à l'écouter. Je parle 45 minutes en plus, quelques minutes en plus, les gens se lèvent. Et ils étaient là. Ils n'avaient pas mangé. Ils étaient encore là. Quel homme! Quel prophète! Le prophète, c'est quelqu'un qui connaît les choses les plus profondes à propos de Dieu et il les applique. Jésus, je suis fasciné pour la manière comme Jésus s'est relationné avec les gens. Il essayait en tout moyen de les mettre en difficulté et c'était les autres qui étaient mis par lui en difficulté. Un jour, le chef des Juifs envoie des soldats pour les prendre. Et après, les soldats arrivent, il y a les gens qui entourent Jésus, et après quelques moments, les soldats retournent. Et le chef lui dit, pourquoi ne l'avez pas amené? Et ils ont dit, personne n'a jamais parlé comme lui. Ils étaient émerveillés, eux qu'ils devaient prendre Jésus, ils étaient émerveillés de Jésus. Et enfin, un prophète, c'est quelqu'un qui révèle les choses à venir. Et ce soir, je veux mettre au feu ces derniers aspects. Est-ce que Jésus a été, dans ce sens-là, un prophète? Oui. Et il y a deux sortes de prophéties que Jésus a annoncées que nous allons mettre à voir. Une prophétie est où c'est là? Voilà. Un texte qui annonce, où Jésus annonce une prophétie. Ce n'est pas une prophétie, c'est quelque chose d'autre, plus profond, si nous voulons. C'est un texte où Jésus discute avec Pierre, parce que les chefs et les gens qui étaient auprès d'eux, ils demandent à Pierre, mais est-ce que Jésus paye les taxes? Et alors Pierre s'adresse à Jésus, mais toi, nous payons les taxes. Et Jésus explique. Mais après, pour ne pas mettre les gens en condition de nous critiquer. Vas-y, lisons.
Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi.
Vous voyez ça? Ce texte nous dit que Jésus était bien plus qu'un prophète. Il était capable de savoir ce qu'il y avait dans la bouche des poissons. Il était capable de savoir que Pierre jetait l'hameçon et prenait justement les poissons qu'il avait besoin. Quel homme! Quel prophète! Un autre texte, c'est bien plus spécifique. C'est dans l'évangile de Luc.
Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. »
Ça, c'est une claire, spécifique prophétie que Jésus a prononcée. Et cette prophétie, nous la trouvons soit dans l'évangile de Luc, que nous avons lu, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. Jésus annonce la fin de Jérusalem. J'ai pris l'évangile de Luc. Aurait été plus intéressant de prendre l'évangile de Matthieu, parce que Matthieu a été écrit au moins 20 années avant l'évangile de Luc. Il était plus loin. Luc a écrit entre les 62 et 64. Donc, 6-7 années avant la destruction de Jérusalem. Mais même annoncer quelque chose qui arrive dans 6-7 années, c'est pas normal. Jésus a annoncé la fin de Jérusalem. Et il dit, laisseront pas en toi pierre sur pierre. J'étais à Jérusalem et j'ai fait des photos que je vais vous montrer. Vous avez vu sûrement plusieurs fois à Jérusalem des images de gens qui vont pleurer devant un mur. Le mur de lamentation. C'est le mur qui tient l'esplanade où il y avait le temple de Salomon et le temple de Zorobabel, le premier et le deuxième temple. Et ils ne peuvent pas aller là-haut, les juifs, qui veulent prier, parce que maintenant, sous l'esplanade du temple, depuis le calife Omar, il y a deux mosquées. On dit mosquées? Et une, c'est juste dans la place où il y avait le temple. Et les juifs ne peuvent pas aller là, parce que ces juifs qui voudraient aller là sont les juifs les plus observants. Et aller dans une place pareille, ils seraient contaminés, donc ils ne vont pas. Et de même, les islamistes qui vont dans la mosquée, ils n'aimeraient pas que les juifs viennent là. Parce qu'il y a entre les deux qui sont loin cousins, il n'y a pas tellement d'amitié. Mais regardez là, la première que vous voyez à votre gauche, je l'ai fait à Rome, dans l'arc de Tite. Si vous avez été à Rome, vous pouvez vous rappeler de cela. Dans la deuxième et la troisième sont les pierres du temple qui a été détruit dans l'année 70, qui sont encore là. Et vous voyez, dans la dernière, il y a quelque chose d'écrit là. C'est justement écrit, ceci sont les pierres du temple qui a été détruit par Titus. Quelle prophétie Jésus a prononcée sur une ville. Il a annoncé la destruction et il dit, dans l'autre évangile, l'évangile de Matthieu, les disciples attirent l'attention de Jésus sur le temple. Et Jésus est en train de parler du temple. Ici, dans l'évangile de Luc, ce n'est pas bien exprimé ça. Mais j'ai voulu mettre l'évangile de Luc parce qu'il parle, il exprime le sentiment qu'il a pour la ville de Jérusalem. Il s'aimait, et vous avez entendu, il pleura. On dit il pleura. Il pleure pour sa ville, pour la ville de Jérusalem. Et il pleure parce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer. Et Jésus dit quelque chose spécifiquement adressé pour le temple. Dans l'évangile de Matthieu, c'est le temple. Et ici, ce que vous voyez, ce que vous voyez là, c'est concernant les blocs du temple construits par Zorobabel, reconstruits, restaurés par Hérode. Cette prophétie-là, dans l'évangile de Matthieu, se trouve dans un cadre prophétique qui est le chapitre 24 de Matthieu. Et dans ce chapitre, il y a la prophétie, une des prophéties plus importantes de la Bible. Nous allons lire cette prophétie maintenant, une partie de cette prophétie, et nous allons voir quelque chose de très important par rapport à ce qui regarde cette prophétie.
Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus aux quatre, des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
Jésus, dans le même chapitre où il parle de la fin de Jérusalem, annonce deux choses, la fin de Jérusalem et la fin du monde. Mais, tandis qu'il parle, quand il parle de la fin de Jérusalem, il parle de la fin de Jérusalem, et c'est tout. Dans l'évangile de Matthieu, c'est décrit les souffrances que les Juifs auront pour cette catastrophe. Quand il parle de la fin du monde, il n'annonce pas seulement la fin du monde, mais dans le contexte de la fin du monde, annonce l'événement clé qui aura lieu, et c'est son retour. Voilà la plus grande prophétie que nous pouvons lire de la part de Jésus. Et cette prophétie est répétée plusieurs fois par Jésus. Jésus n'a pas seulement dit cela, et c'est écrit dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Il y a quelque chose aussi dans l'évangile de Jean. C'est répété dans un contexte différent. Jésus, il a annoncé qu'il aurait dû répéter dans un contexte différent. Jésus, il a annoncé qu'il aurait dû revenir. Et nous allons voir maintenant quelques textes qui nous donnent l'essence et l'importance de cet événement. Sens et importance qu'aujourd'hui, les gens, dans la grande majorité, n'ont pas saisi. Même s'ils sont plus d'un milliard les chrétiens, seulement un petit nombre sait cette grande vérité de l'Évangile qui est le retour de Jésus-Christ. Pour vous donner une idée, j'ai préparé il y a 2 années un document, une étude sur le mouvement œcuménique qui a son siège à Genève. Et j'ai participé à des réunions, j'ai discuté avec des gens là, j'ai posé des questions, j'ai fait des interviews. Et quand je suis arrivé là la deuxième fois pour parler avec la même personne, elle m'attendait, j'avais dit je viens. Elle avait plaisir de parler avec moi. Et il m'a fait cadeau d'un livre qui contient plus de 50 années de documents, plus, parce que c'est depuis 1949 jusqu'au 2015. C'est presque 65 années. Tous les documents de l'Assemblée, des assemblées, des réunions officielles du Conseil œcuménique qui a, je répète, son siège à Genève. Je l'ai presque lu tout, et c'est un gros livre. Pas un mot sur la deuxième venue du Christ. C'était tout sur le plan social, politique, mais pas un mot. C'est la chose pour laquelle Jésus, dans les évangiles de Matthieu, invite à être prêt. Il dit, vous aussi, soyez prêts parce que vous ne savez pas les jours qu'il viendra. Préparez-vous. Et allons lire, avant de voir cet aspect-là, 2 autres passages où Jésus encore déclare sa deuxième venue. Ceci, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 et 3.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Ici, il n'y a pas seulement l'indication de sa venue. Il y a une explication pourquoi il viendra. Une des raisons pourquoi il viendra. Ce n'est pas l'unique. Nous allons voir. Il viendra pour amener ceux qui ont cru en lui le salut total, le salut final. Pour amener la rédemption complète, éternelle, universelle. Alors ça, c'est quelque chose de tellement important qu'il n'est pas seulement suffisant comprendre s'il vient ou il ne vient pas, avoir des arguments pour croire qu'il viendra. Mais quand la Bible nous dit ce qui va se réaliser quand il viendra, elle nous dit quelque chose qui est complètement unique. C'est pas quelque chose que Jésus dit quand ils vous diront allez là, il est là, il est dans la colline, il est dans la montagne. Non. Ne croyez pas, parce que sera un événement universel. Tout le monde le verra. Alors allons lire. Et ici dans ce texte, il parle directement des raisons spécifiques pour lesquelles il viendra pour ses disciples. Il viendra pour amener le salut final à ses disciples. Il dit quelque chose qui pour nous, que nous avons tous une maison, et peut-être nous avons aussi des grandes maisons, il y avait dans ce temps-là, et il y a aujourd'hui, beaucoup de gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas une place pour dormir, qui n'ont pas la possibilité d'être chaud quand il fait froid, ou d'être protégé quand il fait trop chaud. Alors Jésus donne une espérance à ces gens-là. Je vais à vous préparer une maison. Je vais à vous préparer une place, une demeure. Et quand sera préparé, je viens à vous prendre. Quelle promesse! Hein? Allons lire un autre texte.
Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez d'eux-mêmes assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. »
Quand le renouvellement de toutes choses viendra, sera quelque chose qui changera tout. Et ici, je vais mettre un parallèle. Quand Jésus est venu la première fois, il y avait environ, ce temps-là, 60 millions d'habitants dans tout le monde. Quelqu'un dit 25. Mettons le plus haut. Mais combien de personnes ont su que Jésus était le Messie était arrivé? Combien de personnes l'ont rencontré? Combien de personnes ont saisi la beauté de son message? Combien de personnes ont goûté le salut qu'il a amené? Toujours une minorité. Toujours une minorité. Et Jésus, ici, nous dit qu'il viendra d'une façon totalement différente. La première venue de Jésus, les textes que nous avons lus, nous disent que sera un événement universel. Mais nous allons lire un texte qui l'explique encore mieux. Dans ces jours-là, ce ne sera pas comme quand il est venu la première fois, que les gens passaient par Jérusalem, écoutaient, et puis ils disaient, moi je dois aller en Égypte, ou je dois aller à Damascus, ou je dois aller en Galilée. Non. Ce jour-là, tout va finir. On va lire un texte que je n'ai pas ici avec moi. On va le prendre dans la Bible, j'ai oublié de le mettre. Mais maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, et après nous retournons à l'évangile de Matthieu que nous avons déjà lu, Apocalypse chapitre 1, et nous allons lire le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre feront des lamentations à cause de lui. Oui, amen. Il viendra d'une façon universelle. Alors, le problème maintenant, c'est est-ce que cela, c'est quelque chose qui viendra exactement comme il est écrit, ou on peut l'imaginer qu'il viendra d'une certaine façon, pas directement et précisément comme il est écrit. Vous comprenez la question? C'est clair. Comment nous pouvons avoir une idée claire et précise qu'il viendra d'une façon comme nous avons entendu, comme nous avons lu? Alors ça, c'est quelque chose qui mérite une attention spéciale. Jésus n'a pas seulement dit qu'il viendra, Jésus, il a dit aussi, il a donné des signes qui montreront qu'il est en train de venir. Et on va lire un texte, je prends la Bible maintenant encore, dans l'évangile de Matthieu encore, et nous lisons le chapitre 24, où nous avons lu tout à l'heure, et je vais lire avec vous les versets 37. Lisons aussi les 36. Parce que les jours et l'heure, personne ne les sait, ni les gens des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, quand on parle de Noé, il y a beaucoup qui disent que c'est une légende. Ce n'est pas vrai. Et ceux qui croient à l'événement du déluge disent, il y a qui disent que c'était une alluvion, on dit une alluvion, comment on dit ? Une inondation, voilà, qui a intéressé une région entre les Tigris et l'Euphrate, la Mésopotamie. La Bible dit que le déluge c'était un cataclysme qui a intéressé toute la terre. Or, comment pouvons-nous penser qu'il n'a pas été quelque chose de régional, il a été universel? Est-ce que nous avons des preuves scientifiques? Pour certains, il y en a. Pour d'autres, il n'y en a pas. Mais il y a quelque chose. J'ai participé en 2003 à un congrès mondial qui a eu lieu à Berlin. C'était un congrès sous le titre « Science et foi ». Il y avait des scientifiques. Et il y a eu plusieurs présentations des centres, des savants et des experts en géologie, on dit géologie. Sur mon français, c'est pire en pire. Hein? Et un institut qui est au Texas a donné les résultats de 26 années d'études. C'est pas un institut des croyants. C'est pas une église qui a mis sur place cet institut. L'institut s'appelle Earth Research Institute, Institut pour la recherche sur la Terre. Ils ont fait une étude globale, ils ont travaillé 26 années. Plus de 200 personnes ont travaillé et ont fait la map de toute la planète. Ils ont fait voir beaucoup des diapos, des études qu'ils ont faites. Et la conclusion qu'ils sont arrivés, c'est la suivante. Ils n'ont pas dit, ça c'est le déluge de Noé. On ne peut pas le dire, peut-être. Nous y croyons parce que c'est écrit. Mais ils ont dit cela. Il y a eu un cataclysme. Ils ont utilisé le mot cataclysme et pas le mot catastrophe. Il y a eu un cataclysme dû à l'eau qui a intéressé en même temps toute la planète. Or, ça, c'est quelque chose qui a été publié, et a été publié il y a plus ou moins 25 années. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a que nous pouvons dire le déluge est arrivé? Il y a plusieurs choses. Une qui est partout dans la planète, c'est la présence des fossiles. On dit fossiles? Les fossiles, ou fossiles, il y a fossiles d'animaux, fossiles de plantes, surtout. Les fossiles sont des restes d'êtres vivants. Même les plantes sont des êtres vivants. Or, si vous mettez une plante ou un animal sous la terre avec de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a la décomposition. C'est juste. pourquoi il y a les fossiles? Pourquoi il y a des animaux qui sont devenus des pierres? Parce qu'il y a eu un événement qui a déterminé un changement vite, qui a empêché la décomposition. Et cela peut arriver seulement grâce à la pression et à la présence de l'eau. S'il y a le feu, il brûle, ne devient pas en pierre. Mais s'il y a l'eau et la pression, dans l'université de Marseille, dans les années 70-71, ils ont fait des études. Et c'est l'université de Marseille, ce n'est pas en Italie, c'est ici en France. Des études, ils ont mis des choses organiques sous pression dans l'eau et dans l'espace de quelques minutes, à la pression de 200 atmosphères, sont devenues pierres. Ça, c'est ce qui s'est produit avec le déluge, selon ce qui dit la Bible. C'est un événement, quand il y a, la Bible dit qu'il y avait tant d'eau sur toute la surface de la terre. La quantité d'eau improvise s'est produit cette pression avec la moue, avec les animaux qui sont là-dessous, il y a cet effet. C'est un effet que nous, aujourd'hui, le constatons partout dans le monde. Vous avez vu sûrement dans les montagnes avec beaucoup de strates. Il y a des strates qui sont comme ça, des strates qui sont comme ça, des strates qui sont comme ça. Ça signifie qu'il y a eu quelque chose de grand, de puissant, qui a changé la surface de la planète. C'est quelque chose qui est arrivé universellement. Même si nous ne les mettons pas en relation avec Noé, quelque chose, comme est décrit dans la Bible, s'est arrivé partout. Le retour du Christ sera quelque chose qui arrivera partout. Personne ce jour pourra dire « Oh, moi je dois aller acheter parce qu'aujourd'hui, ce soir, j'ai des invités chez moi. » Ou quelqu'un dit « Oh, dans 3 mois, je dois me marier, arrête-toi. Ma fille va se marier le 29 septembre. Elle ne va pas dire « Oui, attends, laisse-moi marier avant. » Il y a à Londres, je ne sais pas si vous avez été dans les supermarchés les plus gros qu'il y a à Londres, un nom c'est un peu difficile à prononcer, il y a un supermarché, j'étais avec ma femme dans les voyages de noces, et à l'heure de la clôture, normalement il y a dans les supermarchés une voix féminine très douce qui invite la clientèle à s'approcher pour la clôture. Ça arrive ici aussi en France. À Londres, il y a une voix comme la voix de notre chanteur baritonal, « Ladies and gentlemen, we close. » Et on dit « close. » Le retour du Christ, c'est un événement où personne peut dire « Attends, j'ai encore besoin de cinq jours. » Quand il viendra, la Bible nous dit « Il viendra pour tous ceux qui habitent sur la face de la terre. » Alors nous allons lire maintenant 2 textes très importants. Le premier, c'est celui-ci. Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 5.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. »
C'est presque incroyable. Plus souffrance, plus douleur, disons plus famine, plus catastrophe, plus la morte. C'est presque difficile à croire. Nous sommes habitués à la mort comme une chose qui c'est absolument On ne peut pas fermer la montre. Oui, il y a des gens qui pensent, ils vont se faire hiberner parce qu'ils croient qu'un jour il y aura des découvertes scientifiques qui permettront à vivre éternellement. Mais la mort est la mort. La mort n'existera plus. La mort, la plupart des fois, est liée à la souffrance, au détachement, à la solitude. Comme pasteur, j'ai dû assister beaucoup de gens et les préparer à mourir. C'est pas beau. Mais c'est une satisfaction quand la personne meurt en paix, avec la certitude que Dieu l'aime et qu'il a un plan pour lui. La mort ne sera plus. Jésus va revenir pour éliminer la mort. Or, l'Apocalypse, ce n'est pas l'Évangile. Mais l'Apocalypse, nous le verrons demain matin, a été écrite sous inspiration de Jésus-Christ même. Un autre texte, je vais vous souligner, qui parle d'une autre situation quand Jésus va venir.
Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
Ah, ça c'est un texte que j'aime beaucoup. Ça c'est ni de Jésus dans les évangiles, ni de Jésus inspiré à Jean dans l'Apocalypse, c'est de Pierre. Mais c'est tellement beau, et je l'aime tellement, que je ne peux pas ne pas lire ce texte quand je parle du retour du Christ. Il y a le même concept, nouveaux cieux, et nouvelle terre. C'est la même réalité, le même futur. Mais ici, il y a une autre chose. Où habitera la justice? La justice dans un monde qui est toujours plus corrompu, où il y a toujours plus de gens. Regardez, à la fin du XXe siècle, il y avait 1,25 milliard de personnes qui vivaient dans la pauvreté. Ce sont les données de l'UNESCO. L'année passée, au mois de mai, l'UNESCO a donné les données encore. 2,05 milliards. C'est vrai qu'il y a aussi eu une augmentation de la population en général, mais 2 milliards de personnes qui souffrent à cause de l'injustice. La plupart des fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les ressources, mais parce que les ressources sont utilisées pour des buts qui ne sont pas pour le bonheur de tous. Pensez un peu. Je vis en Suisse. Chaque année, à Davos, vous avez entendu sûrement, il y a le World Economic Forum. Les hommes plus riches du monde se rencontrent à Davos, se rencontrent le mois de janvier, février, c'est plein de neige, il y a beaucoup de... Ils vont avec la famille, ils participent aux réunions certains, d'autres vont pour se reposer, pour tourisme, pour vacances. Il y a 2 ans, la presse suisse a donné beaucoup d'attention à cette rencontre. Pourquoi? Parce que les 300 personnes environ qui étaient là se sont réunies comme faire face à la crise et continuer à s'enrichir. Il y aura la justice. Il y aura la justice. La justice que Dieu a toujours voulu avec pour son peuple. Il y avait une fête en Israël qui si aujourd'hui on la célébrerait, cette fête changerait beaucoup de choses. Il y avait une fête qui s'appelait le jubilé. Vous avez entendu parler du jubilé. Chaque 50 années, si pendant les 50 années qui étaient en train de s'écouler, quelqu'un avait perdu sa propriété, avait perdu sa liberté, avait perdu ce qu'il avait, dans la 5e année, il retournait en possession du sien. Et il y avait 7 années, chaque 7 années, l'année sabbatique. Et personne ne devait récolter ce qu'il y avait. C'était l'agriculture, l'activité principale. Pour différentes raisons, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais dans cette année, on ne devait pas récolter ce que la terre produisait, c'était pour les pauvres, pour ceux qui n'avaient rien, qui avaient la possibilité d'avoir quelque chose. Ça, c'est la pensée de Dieu sur le plan socio-économique. Mais l'homme ne réalise pas ça, alors Jésus le fera. Et le fera avec nous ou sans nous. J'ai une image maintenant que j'ai prise moi-même en Amérique. C'est une image qui décrit l'événement dont nous sommes en train de parler. C'est une des images que je vais vous laisser avant de conclure. Après, on va lire une autre image que je vais vous laisser avant de conclure. Après, on va lire un autre texte. C'est cette image. C'est un peintre de la Californie qui a fait cette image. Elle n'est pas bien claire, mais vous voyez la description de ce que nous avons lu. Luc dit, Matthieu dit, il viendra avec ses anges. Alors, il y a un texte de Paul qui dit, il viendra avec son de trompette. Et il y aura la résurrection. Vous voyez les gens qui donnent les bébés aux parents. Il y a les bébés qui participent. Sera la fin de toutes choses négatives, de toute injustice, de tout malheur, de toute souffrance. J'aurai encore mes chevaux. Ce n'est pas comme lui qui les a encore. Non, tu les as. Nous aurons encore les cheveux. Et il n'y aura plus de souffrance, de maladie. Quelqu'un a eu mal au dos, il n'y aura plus mal au dos. Et les plus jeunes, non, ils sont là, tous seront jeunes. Mettons cela en connexion avec ce que tu as lu. Le retour du Christ, ce n'est pas quelque chose qu'il viendra. Oui, il viendra. C'est quelque chose dont nous avons besoin. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas solution à la tragédie écologique. Si vous allez sur YouTube, il y a plusieurs vidéos qui montrent comment au pôle nord et au pôle sud, la glace est en train de se réduire. On voit qu'elle s'est réduite. Il y a eu un vidéo qui après, je ne l'ai plus trouvé, et je devais le registrer, les télécharger. En Sibérie, la température est en train de s'élever. Et il y a des palais qui ont été construits sur les terrains qui étaient durs pour la glace. Maintenant, la glace est en train de s'effondrer et les palais perdent l'équilibre. Vous avez entendu parler que la mer est en train de s'élever. Et moi, je suis allé plusieurs fois à la mer. La maison que j'ai en Italie, je vois la mer de ma maison. C'est un peu loin, mais je la vois. Quand il y a le beau temps. Alors j'ai organisé il y a 3 ans, 4 ans, une rencontre tout près de Rimini et je suis allé dans une agence pour organiser les congrès et c'était un homme qui m'a présenté mon frère, qu'il est en contact souvent avec lui. Mon frère, il ressemble à moi quand il m'a vu. Oh, Daniele! Non, c'est pas Daniele, c'est son frère. Et il est là. Il vient de Naples, il habite tout près de Rimini depuis 45 années. Et je lui ai posé la question. Mais on parle toujours que la mer s'élève. Moi, je la vois toujours comme ça. Toi qui es ici depuis 45 années, est-ce que tu vois que la mer s'est levée? Ah, bien sûr, au moins de 60 centimètres. De quoi tu les vois? Il faut que tu ailles au port de chaque ville qui sont ici, tout le monde, eux te peuvent te le dire. Parce que dans les ports, il y a le niveau de la mer quand il y a la baisse et la haute marée, on dit marée. Et il y a aussi le niveau normal. Les événements que les scientifiques disent chaque chose que nous pouvons étudier dans la Bible. Et si j'ai bien compris, il y a le plan d'étudier d'autres prophéties. Et dans ces prophéties-là, vous pourrez voir la réalisation des signes qui nous disent que le Seigneur est en train de préparer sa deuxième venue. Nous avons besoin de ça. Ce n'est pas quelque chose qu'il fera et nous devons l'accepter. Nous avons besoin de ça. L'humanité a besoin de ça. Et nous avons le devoir, si nous y croyons, de faire connaître que l'évangile de Jésus-Christ a cette solution pour toute l'humanité. C'est mon message pour vous pour ce soir. Merci.
Du maître qui m'appelle à le suivre ici-bas, j'entends la voix fidèle qui me dit ne crains pas. L'ennemi te menace, je suis le Tout-Puissant. Je verse en toi ma grâce, moi le vivant. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Saurait me ravir. Le bonheur qui m'inonde et m'aide à le servir. En lui j'ai force et joie tout le long du chemin. Où son amour m'envoie, moi faible humain. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais. Il vit en moi, il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me vit.